7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, les adultes surdoués au travail. Au fil des années, c'est vrai, on connaît de mieux en mieux les enfants surdoués. Ce sont ceux qui apprennent à parler, à lire, un peu comme par enchantement. Mais à quoi reconnaît-on dans le fond un adulte surdoué? Généralement ultra diplômé, avec des postes à responsabilité, l'adulte surdoué peut faire sa journée de travail en 2 heures et le reste du temps étudier le mandarin planqué derrière son écran d'ordinateur. Très sensible, voire émotif. Il est sans cesse assoiffé de connaissances du monde et il s'ennuie vite dans son travail. Son problème, finalement, c'est de se fondre dans la masse, ne pas avoir l'air plus intelligent que son patron si possible. Parce que les entreprises savent peu tirer parti encore de la grande intelligence de ces personnes. Alors, ces personnes sont-elles adaptables au monde du travail? Nous allons en tout cas essayer de mieux comprendre ces adultes surdoués avec nos invités. Thierry Brunel, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
C'est très schématique hein, ce que je viens de dire sur les adultes surdoués. Mais
c'est juste
tout petit peu votre histoire, non, quand même?
On va affiner. Oui, et puis pas uniquement mon histoire, l'histoire de beaucoup de gens.
Bon, en tout cas, vous avez eu votre bac à 16 ans, l'ESSEC, MBA à l'INSEAD, licence de mandarin. Vous avez été pendant 20 ans cadre financier de sociétés cotées en bourse et vous avez finalement trouvé votre voie, entre autres, à la tête d'une association internationale d'adultes à fort potentiel intellectuel qui s'appelle Mensa et dont on parlera. Et puis surtout, vous publiez avec la psychologue Ariel Ada, « Adulte sensible et doué, trouver sa place au travail et s'épanouir ». Publié chez Odile Jacob. Dans le studio de 7 milliards de voisins également, Monique de Kermadec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et spécialiste à l'origine, vous êtes spécialiste des enfants surdoués, hein, des enfants que vous avez suivis jusqu'à l'âge adulte maintenant. Et donc vous avez beaucoup publié sur ce sujet, entre autres l'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. C'est un petit
tout
peu ce qui pourrait
c'est
résumer
tout un programme.
La difficulté de vivre lorsqu'on est un adulte surdoué. Toutes vos questions, bien évidemment, les voisins et les voisines, si vous vous reconnaissez d'ailleurs dans ce que je viens de décrire ou au contraire si vous avez dans votre entourage des adultes surdoués qui ont du mal à trouver leur place dans la société, dans le monde du travail, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour dialoguer avec nos invités. Je rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71. Alors, de quoi parle-t-on tout de même? Thierry Brunel, Monique de Kermadec, doué, surdoué. Vous savez, dans ces cas-là, quand on fait des émissions, il y a plein de gens qui nous appellent. Ah, mais moi, je suis sûrement surdoué. Bon, il y a aujourd'hui des échelles, des chiffres, des tests, de la science.
C'est un mot qui fait peur, effectivement, surdoué, parce qu'on a tendance à l'associer à un fonctionnement extrême, comme celui de Léonard de Vinci ou Einstein. Il est vrai que nous hésitons en France sur les termes, que nous avons plusieurs mots, que, je crois, vous me disiez pas plus tard que tout à l'heure, que Ariel, par exemple, aime beaucoup parler d'adultes doués, d'adultes sensibles, ayant des capacités particulières. Moi, j'ai employé le mot surdoué à défaut de ne pouvoir employer gifted, parce que j'aime bien la notion de talent qui implique avoir quelque chose qui est à travailler et investir.
Oui, mais alors, plus scientifiquement parlant, Thierry Brunel, comment mesure-t-on l'intelligence pour dire que tel ou tel adulte est considéré comme surdoué?
Alors, c'est une mesure statistique. En fait, les tests d'intelligence ont énormément évolué depuis une centaine d'années. Monique pourra vous les donner en détail, mais en gros, on teste aujourd'hui 11 dimensions d'intelligence. Et c'est une sorte de moyenne pondérée, on va dire, des 11 dimensions pour faire court. Et donc, vous retrouvez aussi bien des littéraires que des scientifiques, que des informaticiens, etc. Donc
c'est une population finalement
assez bigarrée. Mmh, vous voulez peut-être...
Oui. C'est un test qui permet d'apprécier l'intelligence cognitive, celle qui permet de faire des études supérieures. On teste la logique, les capacités d'analyse et de synthèse, la mémoire, la culture générale. On teste aussi une logique mathématique, par exemple. Donc, lorsque on aborde avec un VICE4, qui est le test pour les adultes administré en France, on permet à la personne de prendre conscience du fonctionnement d'un grand nombre de modes de pensée que nous utilisons au quotidien dans notre fonctionnement professionnel.
Vous citez la culture générale, mais ça c'est de l'acquis, ça dépend du milieu social.
Oui et non, parce que après tout, nous pouvons tous écouter certaines émissions, nous pouvons lire, nous pouvons nous informer.
C'est ça, c'est ce cerveau qui a une capacité d'éponge, finalement, absorber, recracher, avec
absorber,
une pensée intelligente. Hein, c'est
oui,
ça.
Établir des liens.
Oui, et puis pour préciser, la chose est difficile parce que vous avez un certain nombre de symptômes, de difficultés, de parfois de handicaps, qui peuvent en fait gêner la mesure du score. Quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est hyperactif peut être sous-évalué dans son score total. Sur un plan mathématique, on prend le top 2% de la population de chaque pays. Donc par exemple, quand on a démarré à Dakar, Mensa, on a pris le top 2% de la population.
Vous considérez que dans chaque pays, il y a la même proportion d'adultes surdoués présentant les mêmes résultats, ces fameux tests internationaux.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est un critère absolu, je dirais, d'égalité aussi, et je dirais d'une certaine façon, de façon sous-jacente, totalement antiraciste. C'est-à-dire que, voilà, on considère que l'intelligence, elle est universelle. Je pense que le message est fort. On est, je dirais, à l'opposé des eugénistes. Et on dit que dans chaque pays, on mesure les gens les uns par rapport aux autres. Et donc, on teste le top 2% de cette population. Ceux-là, effectivement, sont considérés comme éligibles. Mais encore une fois, attention, il y a des gens qui, à un moment donné, parce qu'ils ont des difficultés dans leur vie ou parce qu'ils ont des troubles non diagnostiqués, pensent ne pas rentrer dans cette population, et certains spécialistes mal formés leur disent bah non, vos parents se sont fait des idées ou vous êtes fait des idées, etc. C'est pas du tout le cas. Alors que vous êtes dans une situation, aujourd'hui 99% des personnes douées ignorent qu'elles le sont. Donc on est plutôt à l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on a une énorme tâche d'évangélisation en disant aux gens, mais attention, quoi. C'est une dimension
importante. Les tests pour détecter ces adultes doués ou surdoués, peu importe le mot finalement, mais qui font partie de ces 2% de la population dans chaque pays, ces tests sont les mêmes à Dakar ou à Los Angeles?
Alors non, les tests sont adaptés quand même culturellement aux différentes populations, parce qu'il est évident, par exemple, qu'un test de vocabulaire ne saurait être le même si on traduit de l'anglais vers le français ou du français vers le portugais ou je ne sais quelle langue, on est obligé de tenir compte de ce qui est enseigné localement. Mais j'avais quand même envie d'ajouter une petite dimension. Thierry a raison, en test, parfois, on voit que certaines personnes perdent leurs moyens. Et il n'est pas opportun de forcer la personne à terminer ce test ce jour-là, parce que je crois que tout ce que nous testons à ce moment-là, c'est l'importance de l'anxiété, non pas les capacités réelles de la personne.
Est-ce que tous les enfants détectés surdoués, puisqu'aujourd'hui, en tout cas, les pays développés savent très bien détecter les enfants surdoués via l'école, lorsqu'ils sont signalés, ou les parents qui se rendent bien compte que ces enfants sont différents. Est-ce que tous ces enfants détectés comme surdoués restent surdoués lorsqu'ils deviennent adultes?
Oui, alors ça c'est absolument catégorique. Non seulement ils le restent, mais un petit peu comme on voit dans le dernier film de Luc Besson, Lucy, ils peuvent développer en plus leur côté délié intellectuel, notamment par des techniques comme le neurofeedback que je décris dans le livre.
C'est-à-dire?
Alors, dans les années 70, les sportifs de haut niveau avaient besoin d'améliorer leur performance, et donc est né le biofeedback, qui était la mesure de la cohérence cardiaque, de la transpiration, de tout un tas de choses, etc. Et puis dans les années 2000, avec la mesure des ondes du cerveau, est arrivé le neurofeedback, qui sont sorte de série d'exercices ludiques qui sont faits à un écran avec un feedback immédiat et qui permettent de travailler ce que les sportifs de haut niveau appellent la zone. C'est-à-dire l'endroit où on est à la fois très détendu, très relaxé et extrêmement concentré. Puisqu'ils se sont aperçus que les champions olympiques arrivent vraiment au top de leur performance quand ils arrivent à rester assez longtemps dans la zone. Donc vous avez la possibilité dans tous les métiers, y compris dans le journalisme, Emmanuel, de travailler ce délit intellectuel, et c'est probablement, d'après le responsable du Centre Veille-Sommeil de Paris, probablement l'un des domaines les plus enthousiasmants de la recherche autour des personnes qui ont du talent. Moi, j'aime beaucoup ce que vient de dire Monique. Voilà, autour d'une personne talentueuse, c'est-à-dire arriver à délier ce talent, et même si on n'utilisait que 10% de notre cerveau, ben peut-être qu'on peut arriver par des techniques comme ça, en utiliser 15-20%.
Alors, juste avant que ne commence l'émission, on évoqua par exemple le cas de Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook. Vous disiez, bah oui, forcément, lui, c'est un surdoué. même si vous ne connaissez pas ces résultats au test, et peut-être les a-t-il passés, peu importe. Hein. Mais ça, on a parlé des réussites.
Oui,
la réalité est tout autre pour ces adultes surdoués, dans la masse.
Mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres dimensions que l'intelligence cognitive pour la réussite. Vous ne pouvez pas simplement compter sur un QI élevé pour pouvoir réussir, que ce soit dans les affaires, à l'école ou autrement. Il y a des composantes psychologiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a différents facteurs qui contribueront ou non à cette réussite. Donc ceux que nous voyons réussir magistralement ont généralement eu une intelligence émotionnelle et relationnelle qui était particulière et qui leur a permis de faire reconnaître leurs talents et de les investir.
Et puis Emmanuel, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que la réussite ? C'est-à-dire que je donne par exemple dans le livre un exemple, vous qui aimez les exemples, d'une personne qui a très très bien réussi, qui est régulièrement interviewée par un journaliste, etc., et qui venait de faire une paralysie faciale, qui était au bord de l'AVC.
Donc en fait, donc un accident cérébral, voilà. Donc forcément,
et donc,
avec
voilà,
un cerveau diminué,
le risque d'être un légume. Et donc effectivement, la réussite, c'est pas uniquement la réussite matérielle, c'est aussi effectivement de réussir à sa juste place, d'arriver à réussir parce qu'on est naturellement au bon endroit, et donc on va s'épanouir, et donc les choses vont être avec beaucoup moins d'efforts. Et donc du coup, la réussite va être facilitée. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à regarder des exemples un peu extrêmes. D'ailleurs, souvent, quand on voit des émissions d'adultes doués à la télévision, on voit des cas un peu caricaturaux, du type qui sait lire un dictionnaire par cœur et qui a besoin de son père à 45 ans pour s'habiller, pour citer une émission récente. Mais donc, en fait, la réalité qu'on vit en association est tout autre. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à se dire, mais moi, c'est mon cas aussi,
alors,
et peut-être que ça résoudrait mes problèmes de le savoir.
Justement, je crois qu'il faut qu'on explique quels sont les différents problèmes de l'adulte doué au travail, malgré sa grande intelligence.
Alors, moi, je dis qu'ils sont de trois ordres, mais j'écouterai aussi attentivement ce que dit Monique. Je dirais du plus superficiel au plus profond. Je dirais que la première, c'est tout simplement un décalage de communication. Hein, je reprends l'image du conte du vilain petit canard, qui était en fait un joli signe qui s'est découvert sur le tard. Quand vous êtes un signe, que vous parlez en langage signe, et que par projection vous pensez parler à des signes, vous plantez totalement dans votre communication. Ensuite, le deuxième décalage, et donc le deuxième travail qui est déjà un peu plus profond, c'est le relationnel. Et le relationnel, on va en reparler certainement dans l'émission, il est souvent envahi par les émotions. Et là-dessus, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de ramener les émotions à un niveau acceptable. Je parle dans le livre j'ai introduit le concept que j'ai inventé de toilette émotionnelle, mais qui parle à beaucoup de gens à travers le monde, et qui permet effectivement de ramener ces émotions au bon niveau. Et puis enfin, le moins visible, le plus profond, c'est le travail d'ancrage identitaire. C'est-à-dire, c'est difficile d'être différent des autres. Donc, je dois d'abord faire le travail de « je suis honteux d'être un vilain canard ». Ensuite, peut-être que après tout, je peux accepter que je suis pas un canard et que je suis différent, mais ça me casse les pieds d'être différent. Et puis après, finalement, arriver au bout de quelques années, grâce à des gens comme Monique, à la tranquillité, à la fierté d'être et au fait simplement d'être à sa place.
Je m'accepte en tant que signe et donc j'accepte de vivre entouré de crétins qui sont des canards. Non, si, c'est un peu ça ce que vous nous dites quand même.
C'est
ça
pas
le
tout
malheur
à fait
du
ça.
Signe.
Non, je pense que vous y mettez un jugement que je n'y mettais pas. Je pense que le jugement n'est pas utile. Je pense simplement.
Non, en tout cas, vivre avec des gens qui fonctionnent beaucoup moins vite, qui mémorisent.
Oui, mais on a besoin de complémentarité. Je pense qu'il y a des signes qui vivent en parfaite harmonie avec des canards, simplement parce que ils arrivent à leur parler dans leur langage et ils arrivent à être lucides sur leurs propres faiblesses. Vous savez, cette vieille phrase, ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Il y a des gens qui véritablement des ailes de géant qui les empêchent de marcher.
Monique de Carmadec.
Alors, si je devais résumer ce qui peut poser problème à l'adulte surdoué dans le monde du travail, j'emploierais trois mots. L'intensité, la rapidité et l'hypersensibilité. Ce sont des personnes qui ont un mode de fonctionnement, une capacité à investir qui les démarque totalement de leur entourage. Ce sont des personnes qui arrivent rapidement à des solutions ou à des propositions, qui prennent de court leur entourage. Et ce sont des personnes qui réagissent intensément de façon émotionnelle. Mmh. Donc ces trois points-là sont les points que l'on retrouve le plus souvent dans les discours des adultes surdoués en consultation, parce qu'ils sont malheureux dans le monde du travail.
Et parfois, une certaine naïveté aussi qui peut caractériser les adultes doués de cette grande intelligence, où ils peuvent tomber dans des pièges qu'on leur tend dans le monde de l'entreprise et des guéguerres fratricides. On va en reparler juste après cette petite leçon de suédois chez 7 milliards de voisins. Låt mig få känna pulsen igen.
kärlek en skuld. Det är kallt, jag ser att du fryser. Här har du mina händer. Jag fryser så gärna med dig en stund. Men sen ta mig in i värmen, slit av mig mina kläder. Låt mig få komma tätt in till. Och din hud är ren som sammet, och du kastar mig om en kull. Och jag kysser dig för kärlekens skull.
Je ne sais pas si je vais réussir à prononcer, mais en tout cas c'est John Magnusson, le Suédois qui chante. 33-1-84-22-71-71, si vous avez envie de dialoguer avec Monique de Kermadec et Thierry Brunel sur ces adultes surdoués, bien méconnus dans la plupart des pays d'ailleurs. Vous nous disiez juste avant la chanson qu'on estime que dans chaque pays à peu près, on a à peu près 2% de la population qui est considérée comme surdouée. Bien évidemment, ces personnes-là ne sont pas détectées. Vous nous le disiez, Thierry Brunel, 99% des adultes ne sont pas détectés comme surdoués.
Hein. Oui, tout à fait. Ce sont les dernières statistiques des différentes médecins européennes.
Voilà. Alors oui, j'évoquais cette forme de naïveté éventuelle dans les difficultés au travail, à se comporter, à s'insérer dans la hiérarchie, dans les guéguerres, dans l'entreprise, les guéguerres de pouvoir notamment. Vous me disiez, Monique de Kermadec, non, c'est pas tout à fait une naïveté, mais en tout cas, ça pose problème.
C'est une difficulté à pouvoir imaginer que l'autre pense différemment ou va réagir différemment. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce qu'à partir de là, on n'a pas conscience de, je dirais, du fonctionnement de l'autre et on ne peut pas s'adapter à la situation et on risque d'avoir des réponses qui vont être tout à fait inappropriées, donc être incompris.
Oui, on peut repartir de la question d'André Comte-Sponville. Le capitalisme est-il moral? Où il répondait dans son livre, le capitalisme est amoral. C'est-à-dire que j'explique bien dans le livre qu'il y a vraiment deux modèles et ce sont des choix qui doivent être faits en conscience. Il y a le choix de l'enseignement Socrate de la vérité. Je vis dans la vérité et j'assume toutes les conséquences jusqu'à la ciguë. Hein, et donc là, on est dans un modèle que moi j'appelle le modèle de Raymond Aron, qui s'intéresse sur le sens de l'histoire, sur le sens de sa contribution, sur le sens de sa vie d'homme. Et puis il y a le modèle machiavélique totalement assumé aussi, qui est un modèle qui est orienté plus vers le pouvoir, l'argent, la reconnaissance, etc. Très souvent, vous avez des gens qui sont dans une logique, on va dire, de vérité, et qui n'arrivent même pas à projeter qu'ils ont affaire à des gens qui sont dans une logique tout autre. C'est-à-dire que, bon, pour prendre un exemple qui vient de mon domaine financier, je pense qu'un bon conseiller considère que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans une certaine éthique. Et alors que vous avez des conseillers qui vont considérer que l'argent et le contrôle sont une fin en soi et non pas un moyen.
Il y a ceci dit aussi des adultes surdoués qui vont songer à planquer de l'argent en Suisse. L'adulte surdoué n'est pas forcément plus éthique.
Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de dimension plus ou moins éthique. Et il y a autant de gens, on va dire, qui sont dans toutes les populations. Ça n'est pas une dimension discriminante, dimension-là. Mais en revanche, vous avez des phénomènes encore plus flagrants parce que la grande intelligence s'accompagne souvent de grand idéalisme. Vous parliez de naïveté, on n'en est pas loin. De grand idéalisme. Et cet idéalisme, par exemple, celui de Raymond Aron, il n'est pas du tout naïf. Il voit bien, de la même façon que Jacques Attali interroge bien, est-ce que j'ai été manipulé par Mitterrand? Et la question est juste. Et c'est très courageux de sa part, à son âge, de se poser cette question. Parce que c'est une exigence de vérité, de lucidité. Face à l'histoire.
Jacques Attali, typiquement l'adulte surdoué. Hein,
largement très reconnu. Très bel exemple.
Mais vous, si on reprend votre histoire, Thierry Brunel, vous avez été orienté donc bac à 16 ans, donc forcément grande école, donc forcément vous êtes arrivé dans la finance. Est-ce que finalement un adulte surdoué a intérêt à travailler dans la finance? C'est pas le métier le plus exaltant intellectuellement?
Alors moi je suis un métier passionnant parce qu'effectivement la prévision des marchés c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui nécessite beaucoup d'expérience, un sens de la décision, de brasser énormément de données et de développer une intuition extrêmement fine.
Mais il vous a fallu quand même aussi l'étude du mandarin quand même pour combler
c'était un petit jeu intellectuel, c'est bon, un peu comme jouer aux échecs.
On va y revenir, mais... Thierry Brunel et Monique de Kermadec, vous restez avec nous rendons l'antenne pour le flash et on se retrouve bien sûr dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI, 33 1 84 22 71 71, appelez-nous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, nous parlons des adultes surdoués aujourd'hui. C'est un sujet qu'on connaît peu, hein, alors qu'on a beaucoup exploré déjà les enfants surdoués. Ces adultes surdoués, vous nous le disiez, Thierry Brunel et Monique de Kermadec, sont souvent isolés dans le monde du travail. En tout cas, justement, pour répondre à la question de Paul d'Abidjan sur Facebook, les surdoués sont-ils toujours incompris? Je vous pose la question peut-être à vous, Thierry Brunel.
Alors, d'abord, je voudrais redire qu'il n'y a pas une réponse pour un surdoué. Il y a vraiment, nous on voit en association toutes sortes de cas de figure. Donc il y a effectivement certains surdoués qui se sentent profondément incompris. Et je pense que ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir du fait que eux-mêmes ont des difficultés à communiquer avec les autres personnes. Ça peut venir du fait qu'ils sont pas du tout à la bonne place où ils devraient être. Et ça peut venir du fait aussi que ils ne croient pas eux-mêmes assez fort. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Cassandre, hein, dans leur propre intuition, dans leur propre premier instinct. Mmh. Et il y a beaucoup de travail associatif qui consiste à leur redonner confiance et à leur dire de suivre cet instinct, parce que même s'ils se tromperont une ou deux fois sur dix, ils vont se tromper beaucoup moins que quand ils suivent les copains, les conseils de la famille ou quelque chose qui fait plaisir aux parents.
Ça peut sembler paradoxal en même temps, alors que ces adultes savent qu'ils sont doués d'une intelligence largement supérieure. Vous pensez à des cas, à des rencontres précises?
Ah oui, je pense à des cas extrêmement précis de gens qui, par exemple, ont fait des découvertes, des chercheurs dans des entités scientifiques de grandes entreprises qui ont fait des découvertes, qui se les sont fait totalement piller par des gens qui étaient plus dans le calcul, effectivement, et moins dans la démarche vérité, et qui ont été non seulement incapables de revendiquer leur découverte, mais totalement incompris dans leur contribution à l'entreprise, et qui finalement ont fini dans une certaine aigreur et une certaine incompréhension, et une certaine misanthropie.
Bon, mais les difficultés sont quand même susceptibles d'évoluer à partir du moment où la personne a la possibilité de comprendre son propre mode de fonctionnement, de comprendre comment il peut entrer dans des relations plus satisfaisantes avec les personnes. J'ai suivi plusieurs personnes en entreprise qui au départ étaient ingénieurs ou autres et qui avaient effectivement des idées innovantes, qui étaient peu acceptées en réunion parce qu'ils les faisaient passer de façon abrupte, parce qu'ils disaient c'est comme ça, un point c'est tout, et sans patience, et qui avec le temps ont compris comment ils pouvaient mieux faire passer leurs idées, comment ils pouvaient mieux les faire accepter, et comment ils pouvaient gérer les relations avec les équipes. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, c'est-à-dire qu'au départ, on peut souffrir parce qu'on est incompris, mais sinon, on peut analyser la situation, on peut aider la personne à trouver une place beaucoup plus confortable.
C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, ces adultes surdoués, en principe, ils ont fait donc des études, ils sont extrêmement diplômés, donc ils accèdent à des postes à responsabilité. Et sont-ils vraiment faits pour accéder à des postes à responsabilité, manager justement des hommes et des femmes qui ne sont pas doués de la même intelligence?
Alors là encore, il n'y a pas de cas général. Il y a des gens qui n'accèdent jamais à la moindre responsabilité. Il y a même des gens qui n'osent même pas revendiquer des responsabilités qui sont en dessous de leurs capacités, j'en connais.
Quel domaine, par exemple?
Par exemple, la comptabilité. Moi, je me rappelle d'une personne qui était extrêmement brillante en mathématiques et qui, à 42 ans, après une période de chômage, se sentait honteuse et n'osait même pas aller demander un poste de comptable, alors qu'elle avait une intelligence qui lui permettait de faire 10 fois mieux que ça. Et à l'inverse, je dirais, dans les gens qui accèdent au poste de responsabilité, comme le disait Monique, il y a des gens qui sont extrêmement doués sur le plan relationnel et puis qui font un vrai travail sur eux-mêmes et qui, petit à petit, deviennent très ancrés. Parce que je pense qu'on le voit bien, d'ailleurs, au plus haut niveau de l'État, selon que les gens sont ancrés ou pas ancrés, ils ont une force ou et une crédibilité ou ils ont du mal à l'avoir. Et donc, il y a des gens qui sont plus faits pour être dans des positions numéro 2 ou de responsables d'associations, de partis, etc. Et il y a des gens qui sont véritablement faits pour le poste suprême. Et ça, c'est l'intelligence n'est pas le critère le plus déterminant. Je pense que l'ancrage identitaire, l'aptitude relationnelle et ensuite le sens de la relation à l'autre et l'art de la prudence, comme dirait Balthazar Gracian, ça, ce sont des armes essentielles pour accéder au pouvoir et s'y maintenir.
Alors justement, on a pas mal de messages qui évoquent le problème de la jalousie, c'est-à-dire que finalement être un adulte surdoué dans le monde du travail évoque soit la jalousie, soit provoque la peur, l'anxiété chez les supérieurs hiérarchiques. Les adultes surdoués témoignent de cela ou pas dans votre association?
Oui, et ça d'ailleurs, j'en parle dans le livre parce que c'est terrible, parce que évidemment les gens ne se doutent pas de ce qu'ils provoquent, mais finalement le talent fait peur. Le talent fait peur à la personne qui est arrivée de façon peut-être un peu plus besogneuse, un peu moins talentueuse, et qui a peur de perdre son poste. Donc effectivement, je décris des exemples où des gens se prennent des pots de banane incroyables sur des choses absolument injustifiées et manipulatrices, mais qui aboutissent à chaque fois à la sortie d'entreprise. Et donc effectivement, il y a ce sentiment de solitude dont parle dans le livre, qui est terrible, mais qui est lié notamment à cette jalousie, à cette envie, et d'où effectivement cette notion d'habileté sociale et de pouvoir effectivement...
Ça, vous décrivez des cas de gens qui font des gaffes en même temps incommensurables dans la relation avec les autres, par exemple dans le milieu bancaire avec des clients, etc., oui, qui mettent les pieds dans le plat, qui sont cash, comme
tout
vous
à fait,
dites.
Tout à fait.
Ça peut sembler inouï,
oui,
avec l'intelligence dont ils sont doués.
Ils ne s'en rendent pas compte parce que leur intelligence, ils l'ont appliquée à d'autres domaines. Et donc, par exemple, ce sont des gens qui vont être absolument pointus, je sais pas, en astronomie, en physique des fluides, voilà, ou en informatique, et qui vont vous résoudre des choses qui sont quasiment insolubles dans l'entreprise. Et puis, effectivement, au quotidien, leurs ailes de géant les empêchent de marcher.
Est-ce que ça veut dire que vous conseilleriez à des adultes détectés comme surdoués, c'est-à-dire ayant des scores très élevés à ces fameux tests qu'on a évoqués au début de l'émission, de rechercher plutôt des fonctions dans l'entreprise, plutôt dans une tour d'ivoire, plutôt seul?
Alors, je distingue dans le livre, en fait, ce que j'appelle les faucons et les colombes, qui n'a rien à voir avec les partis politiques américains, qui est leur sensibilité et leur capacité de résistance à la dureté du monde. Et je pense que, effectivement, quand je dis effectivement assez précisément que les gens les plus sensibles et les plus tendres sont plus faits pour des fonctions d'experts, soit dans des professions libérales, soit dans des professions quasi-libérales comme le journalisme, soit dans des missions d'experts. Et les gens les plus durs, en revanche, et là encore, ça n'est pas une dimension qui a à voir avec l'intelligence, eux peuvent tout à fait prendre des positions de leadership.
Monique de Kermadec.
Oui, on a vu très souvent que les grandes entreprises, les entreprises qui ont des structures très, très hiérarchisées, avec des promotions qui peuvent être très longues à obtenir, sont en souffrance. Ce qui est important, c'est que l'entreprise ait une certaine souplesse dans son fonctionnement et la possibilité de reconnaître les contributions possibles des employés. Et l'adulte surdoué peut trouver une place, mais il est vrai qu'il a besoin malgré tout d'être dans une société susceptible de comprendre son mode de fonctionnement. Tout à l'heure, le mot jalousie me gênait un petit peu parce que je ne crois pas que c'est l'intelligence qui fasse peur. Je crois que c'est la manière dont nous amenons nos réponses qui peut faire peur. En fait, beaucoup de choses peuvent être dites, mais la façon de les dire va faire que l'interlocuteur va se sentir menacé, va avoir l'impression que l'autre veut absolument être dans une position de pouvoir ou veut prendre sa place. Or, quand l'adulte surdoué dit de façon très brusque « c'est comme ça, voilà ma réponse », il ne cherche pas nécessairement à prendre la place de l'autre. S'il le communique, le même message communiqué différemment ne fera pas peur et ne suscitera pas de jalousie.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à être.
Tout à fait.
Quand on est un adulte surdoué.
Et être avec les autres. Il faut absolument, pour bien plus que pour les autres, il faut apprendre à être avec les autres.
Oui. Alors, ceci dit, est-ce que finalement les entreprises ont tellement envie de recruter des adultes surdoués, des gens extrêmement talentueux? C'est une question qu'on peut se poser.
Oui, alors ça c'est une très bonne question parce que comme nos amis américains ont un petit peu d'avance sur le sujet, on a une vision assez claire, et d'ailleurs Monique en dira peut-être quelques mots parce qu'elle a vécu aux États-Unis plus longtemps que moi, il y a des véritables programmes de détection parce que les entreprises ont compris tout ce qu'elles pouvaient retirer du talent. Les militaires, par exemple, font en sorte de les mettre dans leurs endroits les plus high-tech, parce que forcément, pour les gens qui aiment bien la technologie, ils vont être très très fascinés par toute cette technologie en avance. Enfin, il y a un certain nombre de techniques comme ça qu'on connaît, les entreprises aussi. Donc, il y a des postes sur lesquels ils sont indispensables, ils font gagner les entreprises dans les stratégies concurrentielles, ils font passer les entreprises en tête, ils leur font avoir 10 ans d'avance. Hein, comme on disait, il y a trois façons de gagner, c'est d'être le premier, d'être le meilleur ou de tricher. Ben, souvent, au moins dans l'être le premier et d'être le meilleur, vous avez souvent des personnes douées ou surdouées. Après, effectivement, tout dépend, encore une fois, de la juste place, c'est-à-dire de l'adéquation entre le talent et l'endroit où il doit être. Et là, je pense qu'il y a une grosse mission de la part pour les DRH, les RRH, aussi bien dans le côté sombre, c'est-à-dire les risques psychosociaux pouvant aller jusqu'au suicide, ou en tout cas les grands stress, que effectivement dans le côté lumineux, c'est-à-dire le cadre qui va véritablement faire gagner son entreprise. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la gestion des potentiels par rapport à l'accompagnement de ces personnes qui certes sont compliquées, mais finalement peuvent être incroyablement productrices.
Mais il y a des progrès qui sont en train de s'accomplir, il faut quand même le dire. Je suis en contact assez régulièrement avec des coachs ou des directeurs de ressources humaines qui cherchent réellement à avoir des informations, qui cherchent à créer des groupes de réflexion sur comment intégrer au mieux ces personnes talentueuses dans leurs entreprises. Nous en sommes au balbutiement, mais il y a quand même une prise de conscience.
On a un message là posté sur le fil Facebook extrêmement long, probablement d'un adulte surdoué qui est à Lubumbashi dans le sud de la République démocratique du Congo. Il nous décrit toute son enfance, etc. Bon, où très rapidement il a accédé à la connaissance avec une grande facilité. Et il nous dit, il enseigne les mathématiques à l'université, au lycée. J'exerce un grand nombre de métiers. J'ai toujours abandonné à force d'être incompris. J'ai travaillé dans la banque comme analyste financier, en ONG internationale comme logisticien, en entreprise comme data manager, le plus grand calvaire, donc, nous dit Marco à Lubumbashi, dans la vie professionnelle, comme d'ailleurs dans la vie scolaire. Je ne vois pas de différence, nous dit Marco, c'est d'être indexé comme un partisan du matu-vu, un prétentieux, voire un orgueilleux, quand on essayait de faire de son travail correctement. J'ai fini par tomber dans une timidité presque maladive, écrit Marco. Aujourd'hui, je m'épanouis dans l'enseignement, où avec les étudiants et les élèves, la communication est plutôt facile.
Marco, d'abord, moi je ne peux que me réjouir que Marco ait trouvé sa place, parce que ça c'est important de trouver sa place. Ensuite, comme je le dis dans le livre, le bonheur est dans le « et », c'est-à-dire qu'il peut très bien, l'activité professionnelle n'est pas tout, il peut avoir une autre activité, par exemple plus créative ou qui corresponde plus à ses aspirations humanitaires, et donc il peut très bien avoir son activité professionnelle plus une activité associative. Et puis effectivement, c'est tout le travail d'information qu'on doit faire nous, et c'est ce dont Monique parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aider les gens, les jeunes Marco qui arrivent sur le marché du travail, il faut qu'on puisse leur donner les outils pour qu'ils ne soient pas autant en souffrance dans leur parcours avant de trouver une place qui leur convient. Oui. C'est tout l'objet du livre.
Dans des grandes entreprises, il y a aujourd'hui tout de même des tests qui sont réservés pour détecter des salariés à fort potentiel.
Oui, alors ça dépend un petit peu. C'est-à-dire que vous avez des tests de profil psychologique, vous avez des tests de profil par rapport au contrôle, par rapport au positionnement, par rapport aux autres, de relationnel, etc. Il est très rare que l'on teste l'intelligence stricto sensu.
Ça faisait peur, finalement?
Non, comme si c'était pas la dimension la plus importante, sauf pour certains métiers. Oui. D'accord. Et en revanche, effectivement, on oublie toujours, je dirais que le grand oublié, c'est de tester la sensibilité et l'hypersensibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est hypersensible, qui est hyper empathique, il va, dans certains cas que je décris, devenir un caméléon. Et on va pas du tout voir où est le problème. C'est-à-dire qu'il va se fondre dans la masse.
Il
va
être
là.
En fait,
là, pour le coup, non. Il va être extrêmement habile rationnellement. C'est-à-dire que c'est une stratégie de survie comme une autre. C'est-à-dire qu'il va se fondre dans le décor. Mais du coup, il va être totalement à la fois sous-productif pour l'entreprise et lui, malheureux au fond de lui. Et pas du tout ancré.
Thierry soulève là une question qui me pose problème, qui est jusqu'où l'entreprise doit-elle avoir connaissance de ce qu'est la personne? Parce qu'après tout, lorsque nous acceptons un emploi et un emploi en entreprise, nous louons quelque part nos capacités de raisonnement, nos capacités à investir et à être rentable pour l'entreprise. Ce n'est pas une entreprise humanitaire, c'est une entreprise à but, je dirais, lucratif néanmoins. Et je ne suis pas sûre que l'entreprise doit tout savoir sur la personne. Par contre, elle a le droit de s'informer de telle façon qu'elle peut être rassurée sur ses capacités à tenir le poste qu'on veut lui confier.
Oui, et puis je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est pour ça, je pense qu'il y a à la fois des psychologues, des coachs extérieurs qui sont financés par les entreprises pour les personnes clés, mais je pense qu'effectivement, autant il est important qu'un DRH pointe ce sujet-là et l'adresse, autant effectivement, ça doit être fait dans le strict respect de la confidentialité de l'histoire de la personne.
Alors, vous rencontrez, notamment dans l'association Mensa, Thierry Brunel, des jeunes loups qui, à 30 ans, piaffent d'impatience, parce qu'ils savent, en plus, qu'ils ont obtenu des résultats extrêmement élevés à ces tests d'intelligence. Vous leur dites prendre son temps, hein. Et eux vous répondent, c'est pas moi qui suis impatient, ce sont les autres qui sont lents.
Oui, alors ça a été assez bien écrit en fait, hein. C'est un décalage de rythme, et c'est pour ça qu'il y a tout un apprentissage de qu'est-ce que je fais de cette vitesse, Et est-ce que finalement j'arrive à avoir des moments où effectivement, comme je dis, on libère la puissance de l'étalon, hein, j'en parle dans le livre, où on est véritablement, effectivement, on travaille la vitesse de la lumière. Je veux dire, ça, c'est une expérience extrêmement forte pour les gens, très positive, très très rassurante. Et en même temps, on doit se resynchroniser avec le rythme des autres, parce que les autres, on en a besoin.
Vous le dites bien dans le livre, hein, l'un des principaux dangers qui guette l'adulte doué dans une entreprise, c'est que le mélange de son talent, de son franc-parler, de sa rapidité donne le sentiment d'un cheval fou, incontrôlable, et pourrait à tout moment devenir une menace pour le supérieur. Ça peut être aussi un peu comme la finance, hein, d'ailleurs. Vous nous appelez si vous le souhaitez. Il nous reste quelques minutes au 33 1 84 22 71 71 ou sinon vous livrez vos témoignages plus confidentiels sur le fil Facebook. On va parler maintenant de l'association Mensa dans quelques instants. 100 000 membres dans une centaine de pays. Comment entre-t-on dans cette mecque de l'intelligence ?
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander, quand je glande faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron, tu crois que je te prends pour un con.
Pour le sud, eh.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Même si tu me...
J'aime pas travailler, à certains adultes surdoués d'ailleurs. Rechigne en tout cas à l'effort puisque tout est si facile depuis qu'ils sont nés pour apprendre. Zoufri Maracas, chez 7 milliards de voisins, on parle des adultes surdoués. Et je voudrais qu'on prenne le témoignage d'Osni qui nous appelle de Lausanne. Bonjour Osni.
Bonjour Emmanuel, vous êtes... bonjour à vos auditeurs.
Alors racontez-nous votre histoire, je crois que vous êtes Camerounais d'origine et vous vivez en Suisse.
Tout à fait.
Oui,
en
vous
fait, je me suis quelque peu reconnu dans le parcours qui a été expliqué par l'invité à l'émission, dans la mesure où... Moi, de par mon parcours scolaire, alors j'ai toujours été premier de la classe jusqu'à l'université, j'ai toujours excellé, mais je me suis retrouvé un peu discriminé au niveau de la société, c'est-à-dire, comme disait le diable, jalousé par certains, même au niveau social du quartier, à un moment où certains parents donnaient tout aux enfants qui réussissaient, et moi, dans une famille modeste, j'arrivais toujours à être meilleur avec trop de moyens, pas de manière scolaire. Alors, et maintenant, cette s'est poursuivie ici en Suisse, parce que ne pouvant pas m'intégrer dans la société
camerounaise. Vous êtes parti en Suisse pour vos études aussi ?
Oui, j'ai eu un premier concours pour aller aux Pays-Bas, et malheureusement, un concours vraiment très sélectif, mais le gouvernement a omis de refinancer ces études, mais j'ai eu un autre concours, je suis venu en Suisse, une bourse suisse pour faire des études en droit de l'homme, et après ça, ne pouvant pas toujours m'insérer à cause de cette stigmatisation, quand j'arrivais dans une entreprise en stage, j'étais toujours parmi les meilleurs. Mais au bout du chemin, on ne me retenait jamais. On prenait les moins bons que moi.
Alors, qu'est-ce qu'on vous disait ? Qu'est-ce qu'on vous disait ? Alors, vous aviez le sentiment, en tout cas, vous dites que vous aviez le sentiment d'être le meilleur. Quel était le prétexte que l'on prenait pour ne pas vous embaucher ?
En fait, quand on travaillait, j'étais toujours chef de groupe. Et en fait, maintenant, à la fin... Pour un petit jour, on me dit, bon, compte tenu du fait qu'il y a eu des gens qui sont venus avant vous, on va d'abord les prendre et après on va vous rappeler plus tard. Et c'était comme ça que le dossier était classé. Après, moi, je me suis senti que je devais essayer de tout arracher par moi-même, ce qui fait que j'ai été obligé de m'orienter à créer un truc de capacité de consulting personnel pour ne plus essayer d'attendre d'être discriminé dans les entreprises.
Et aujourd'hui, comment ça marche ? Vous êtes donc consultant indépendant ?
Je suis consultant indépendant dans le domaine des assurances ici à Lausanne. Et c'est comme ça que je me suis un peu éloigné de ces frustrations, là où tout le monde m'apprécie.
Et vous n'avez plus de difficultés, du coup, dans la relation aux autres en étant consultant indépendant ? Parce que vous êtes obligé de trouver des clients tout de même.
Sur le plan professionnel, ça va de mieux en mieux parce que de tous mes clients, ils sont toujours satisfaits de moi. Mm. Mais s'ils me disent, je leur dis toujours ce que c'était concerne leur jamais dit. Oui. Mais c'est maintenant au niveau social, quand je vais dans les réunions, je réfléchis toujours un cran au-dessus des autres. Je vois des aspects, des problèmes qu'ils ne voient pas. Oui. Et après, ils trouvent plutôt que je complique les situations. Je dis, mais et le lendemain, quand il y a discuté, ils me donnent toujours raison.
Thierry Brunel, vous pouvez intervenir.
Oui, d'abord aussi, je voudrais vous féliciter d'avoir trouvé votre place au travail, parce que tous n'ont pas fait votre parcours et eu votre courage et votre résilience, donc bravo. Et puis sur le plan social, je voulais vous dire qu'il y a deux Mensa en Suisse, il y a une Mensa germanophone à Zurich.
Donc l'association de 200 000 membres.
Il y a une Mensa francophone à Genève, qui ont bien besoin de bonne volonté et d'autres gens. Donc si vous voulez passer un peu de temps avec des gens qui ont les mêmes soucis, les mêmes douleurs, les mêmes préoccupations et peut-être aussi les mêmes joies que vous, n'hésitez pas à les contacter. C'est une association, tout ce qui est
d'adultes à fort potentiel.
Oui, c'est une association, qui est née en 46 en Angleterre, qui est essaimée un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, la croissance la plus forte est en Chine et on l'espère bientôt en Afrique francophone, puisque l'Afrique anglophone mène ça y est depuis assez longtemps. Et je dirais qu'effectivement, l'idée, c'est deux choses. C'est à la fois de permettre aux gens de se retrouver, de sortir de cette solitude sociale et de cette douleur sociale. Et alors évidemment, avec toutes les imperfections d'une association. Et deuxièmement, c'est de contribuer au partage de l'information sur l'intelligence et les progrès de l'intelligence. Voilà.
Rossini, vous souhaitez ajouter un mot de conclusion ?
Oui, c'est justement pour dire à tous ceux qui vivent le même calvaire que ce que j'ai vécu, ne sait jamais se décourager et essayer de toujours se battre à défaut de pouvoir être accepté par les autres et s'accepter soi-même et pour pouvoir se définir dans la société.
Merci, c'est une bonne conclusion. Merci infiniment, Osni, et puis bravo. Donc maintenant, vous êtes conseiller en assurance à Lausanne. Mensa, 100 000 membres dans une centaine de pays. Comment on est recruté par Mensa? Enfin, c'est pas une entreprise, c'est une association, donc c'est une forme de cooptation.
Alors, on n'est pas recruté, on souhaite adhérer à Mensa. Il y a deux façons d'entrer à Mensa. Soit on passe les tests, et donc il y a des pré-tests que vous pouvez passer.
Donc des tests d'intelligence.
Voilà, des tests, qui testent les 11 dimensions. Vous pouvez passer des pré-tests sur Internet. Vous pouvez même vous entraîner, parce qu'il y a des bouquins de tests qui traînent un petit peu partout. Donc vous passez des pré-tests, ça vous donne déjà une première indication parce que c'est assez stressant d'aller passer un test. Ou bien vous pouvez aussi aller voir des psychologues comme Monique et passer un test qui va vous donner beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de résultats qui vous seront utiles pour votre vie personnelle, professionnelle, et demander à être accepté sur dossier par les psychologues sérieux, reconnus par l'association.
La rencontre avec d'autres adultes qui sont doués de la même intelligence, qui rencontrent des problèmes similaires, est-ce que ça aide beaucoup, Monique de Carmadec?
Alors pour certains, c'est vrai que de sortir de l'isolement, de pouvoir sentir que un échange profond, un échange intense est possible avec l'autre est très important. D'où ce sentiment de solitude dont on entend parler très régulièrement en consultation, car il est difficile bien évidemment de trouver l'âme sœur, mais aussi de trouver quelqu'un avec qui on peut partager ses enthousiasmes. Mais à nouveau, j'aimerais insister sur le fait que oui, les associations peuvent tout à fait permettre de répondre à ce besoin, et que par ailleurs, souvent, je dirais même ne serait-ce que les groupes d'intérêt dans lesquels nous partageons une passion avec d'autres personnes permet de sortir de cette solitude.
Alors justement, à propos de solitude, est-ce que vous diriez finalement que le bonheur au travail est possible pour ces adultes à partir du moment où on a fait un certain nombre de deuils?
Ah oui, alors là, c'est tout à fait le combat de ce livre et de tout mon engagement associatif. Ce qui me frappe énormément, moi, qui ai contribué dans d'autres associations avant, c'est que c'est tant que la personne a envie d'aller mieux, tant qu'elle n'a pas baissé les bras, comme disait Osni tout à l'heure, tant qu'elle ne se désespère pas, tant qu'elle continue à avancer, elle va, avec un tout petit peu d'information, nous on veut être des passeurs d'informations, des passeurs de clés, avec un tout petit peu d'information, elle va revenir, je dirais, avec une énergie considérable, à petit à petit faire le travail qu'elle doit faire, comme je disais, sur le plan identitaire, sur le plan relationnel, sur le plan de la communication, et finalement trouver sa place, trouver sa juste place, rayonner, et aussi réussir, il faut le dire.
Thierry Brunel, vous avez été détecté enfant surdoué très jeune, non, à votre époque il y avait déjà des tests, c'était déjà bien mis en place?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que pas du tout. Moi, je suis allé parce que j'avais comme... Il y a beaucoup d'enfants doués qui ont des problèmes en cinquième ou en seconde. Donc moi, en seconde, mes parents sont affolés. M'ont envoyé faire des tests rue d'Ulm près de Normale Sup. Et puis, à l'époque, on disait, je crois qu'on dit encore dans certains milieux, à ceux qui font les tests, surtout ne dites rien aux parents, ne dites rien aux enfants, parce qu'ils vont attraper la grosse tête. Mmh. Ce qui est une aberration, parce qu'en fait, vous êtes face à des gens qui doutent.
L'intelligence est une maladie honteuse, finalement.
Voilà,
ouais.
Qui manque alors, de confiance en eux. Donc moi, j'ai été testé, mais on ne m'a rien dit. On a juste dit à mes parents, vous inquiétez pas, ça ira très bien.
Donc ça n'a pas servi à grand-chose. Aujourd'hui, vous êtes père de trois enfants également surdoués.
Ouais. Tout à fait.
Et hyperactif?
Tout à fait aussi.
Mais ça va pas forcément ensemble.
Non, c'est juste, comme je disais, de troubles qui à la fois ont des très grandes fragilités et en même temps des gigantesques forces. C'est ce qu'on appelle le twice exceptional aux États-Unis. C'est ce qui permet de libérer le plus de potentialités pour autant qu'on ait adressé correctement les fragilités.
Ouais. Mais quel père vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des erreurs que vous n'avez pas reproduites? Et que vous avez vécu enfant des souffrances.
Oui, je pense qu'il y a on essaye tous effectivement de pallier un certain nombre de choses et notamment peut-être dans le fait que des enfants atypiques ont peut-être besoin de normes un tout petit peu plus souples et d'avoir des challenges, d'être encouragés à des initiatives beaucoup plus fortes parce qu'effectivement c'est ça qui va les stimuler. Il faut leur donner le sens de l'effort. Les enfants à qui tout est facile, qui peuvent passer parfois pour des fainéants, enfants comme adultes, en fait sont des gens qui, une fois le sens de l'effort transmis, ça je crois que c'est une mission importante, peuvent donner des résultats exceptionnels.
Monique de Kermadec, vous suivez maintenant la deuxième génération d'enfants, enfin d'adultes.
Non mais vous êtes remonté à l'âge de la pierre taillée.
Non
là.
Mais on a grosso modo des adultes aujourd'hui qui sont parents d'enfants surdoués eux-mêmes et qui eux-mêmes ont été détectés.
Et parfois d'ailleurs les parents découvrent leur propre douance au travers des tests qu'ils vont faire pour leurs enfants. Et ce sont les enfants qui les informent sur eux-mêmes.
Moi aussi j'étais un adulte, enfin je suis un adulte.
Voilà, tout à fait. C'était tout à fait mon cas.
Merci à tous les deux. Thierry Brunel, adulte sensible et doué, trouver sa place au travail et s'épanouir. C'est publié chez Odile Jacob et Monique de Kermadec. Vous avez publié L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué chez Albin Michel. Et plus récemment, Le petit surdoué, là c'est de 6 mois à 6 ans. Oui. Et c'est chez le même éditeur. Merci à toute l'équipe et pour toutes vos réactions, vous pouvez nous écrire bien évidemment à tout moment à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, enquête, reportage, l'école après Charlie Hebdo, des enseignants racontent. À demain.